Ces derniers mois, dans les médias, on a entendu plusieurs affaires d'escroquerie. Je ne veux pas donner de mauvaises idées ce soir, hein, mais Jean-Pierre Gaillard a réussi à se faire embaucher comme directeur de l'aéroport de Limoges grâce à de faux CV. Et pendant un bon bout de temps, ça ne s'est pas repéré. C'est seulement quelqu'un du passé qui l'a reconnu et qui a révélé l'affaire. Thierry Tilly a réussi à manipuler une famille de la région de Bordeaux pendant 8 ans, les faisant croire à un complot. Et le préjudice est de 4,5 millions d'euros. On peut regarder chacune de ces affaires et se dire, mais comment est-ce que des gens ont pu croire à un tel complot ou à une telle supercherie? Comment est-ce qu'ils ont réussi à se faire avoir? En fait, je pense que chacun d'entre nous, si on faisait le tour ce soir, chacun d'entre nous est tombé dans une entourloupe à un moment ou à un autre. Et s'il y en a qui se disent, non, pas moi, je suis jamais tombé dedans, je pense que vous êtes en fait dans la pire des situations, parce que vous ne le réalisez même pas. ceux qui ne le réalisent même pas, c'est encore pire. Mais probablement chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, on se fait avoir, duper. Les escroqueries, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et paradoxalement, ici en France, on est très méfiant, n'est-ce pas? On est très suspicieux. On a ici une petite citation de Pascal Baudry qui décrit l'esprit de méfiance qui nous anime. Il imagine quelqu'un qui parle, un interlocuteur, et l'autre, l'auditeur, ce qu'il pense dans sa tête. Écoutant le locuteur de toutes ses oreilles, le Français entendra bien plus que ce qui est dit. Pourquoi c'est lui qui le dit? Pourquoi le dit-il comme ça? Pourquoi me le dit-il à moi? Pourquoi me le dit-il maintenant? Que ne dit-il pas? Qu'est-ce qu'il me cache? Qu'est-ce qu'il aurait dû me dire? En quoi a-t-il tort? Comment essaie-t-il de m'avoir? Et alors que j'ai commencé à parler, vous êtes peut-être posé ces mêmes questions? Hein? Ce genre de méfiance, on l'a assez facilement ici en France. Il y a une suspicion, il y a une méfiance. Et qui n'éprouve pas de méfiance quand quelqu'un vous accoste dans la rue, vous propose quelque chose de gratuit? Est-ce que vous allez sauter sur l'affaire? Vous avez toutes sortes de questions qui vous passent par l'esprit. Et tout ça, ça pose naturellement la question de l'évaluation. Comment est-ce qu'on va évaluer quelque chose qui est effectivement faux et donc où la suspicion, elle est fondée, la méfiance, elle est fondée? Ou est-ce qu'on doit au contraire recevoir ce qui est proposé? L'accepter? Je propose de résumer le chapitre de la manière suivante, et vous verrez le lien avec cette introduction par la suite. L'apôtre Paul renonce à ses droits en tant que serviteur de l'Évangile, mais il ne renoncera pour rien au monde à cette annonce. En fait, dans ce chapitre, je vous suggère que l'apôtre Paul tient compte d'une certaine suspicion. À la manière de rédiger, on le verra, et en particulier pour ce qui est question de l'argent. Mais il affirme qu'il est prêt, pour cela, à renoncer à ses droits. Et dans le même temps, par la suite, il reconnaît qu'il est hors de question qu'il renonce à l'annonce de son message. Et ce sera l'occasion pour nous, si nous ne sommes pas croyants ce soir, pour ceux qui ne sont pas croyants, de comprendre ce message. Peut-être pour la première fois, mais aussi pour ceux qui sont croyants, de réfléchir à son contenu et à la manière de l'annoncer. Le plan, il sera tout simple. Ce à quoi il renonce dans les 14 premiers versets et ce à quoi il ne renoncera pas dans les versets 15 à 27. Ce à quoi il renonce. Quelles seraient, d'après vous, les raisons de suspecter le christianisme? Quelles seraient les choses dont on pourrait se méfier quand on entend parler du christianisme? On pourrait éplucher l'histoire et voir dans pas mal de situations que des personnes qui se sont dites croyantes à travers les siècles ont démontré, enfin, en fin de compte, et quand on grattait un peu plus, un abus de pouvoir, un désir de contrôler d'autres personnes. À d'autres moments, des personnes qui se sont dites croyantes dans l'histoire ont voulu avoir un pouvoir politique, ou alors ils ont voulu faire du profit sur le dos d'autres personnes. On pourrait retourner dans l'histoire et voir de cela. Oui, il y a bien des situations où ça donne froid dans le dos en pensant à toutes les escroqueries qu'il y a eues, prétendant qu'il s'agissait soi-disant du message chrétien. Il y a des bonnes raisons de se méfier. Et ici, on voit que l'apôtre Paul devait faire face à une certaine méfiance et même des accusations, on le voit au verset 3. « Voici ma défense devant ceux qui me jugent. » Est-ce qu'on arrive à reconstruire un peu le genre d'accusation qu'il y avait au temps de l'apôtre Paul, cette fois-là, sur la base de ce qu'il écrit? Quant à ceux qui ont soulevé ces accusations, il est difficile de dire précisément. Quand on lit la deuxième lettre qu'on a de l'apôtre Paul aux Corinthiens, il est probable que ce soit des gens qui étaient attachés à une certaine pratique du judaïsme et qui semblaient regarder de haut l'apôtre Paul, son ministère. Mais en tout cas, on en trouve des traces de cette remise en question dans les questions qu'il pose l'apôtre Paul. Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas vous-même mon œuvre dans le Seigneur? Dans l'esprit de ces personnes qui regardent avec méfiance le ministère de l'apôtre Paul, on peut imaginer les raisonnements. Après tout, il n'était pas un des douze disciples qui était tout le temps avec Jésus. Il ne l'a pas connu comme d'autres l'ont connu. Il ne l'a pas vu de cette façon-là. C'est vrai. L'apôtre Paul n'était pas un des douze. Et pourtant, il a bel et bien vu le Christ ressuscité sur la route de Damas. Et l'existence même de l'église de Corinthe, elle est basée sur son apostolat, le fait qu'il était bel et bien apôtre. Une autre chose qui a, semble-t-il, traversé leur esprit, c'est la question de la rémunération. À la différence des autres apôtres, il n'emmène pas d'épouse, il est seul, il ne demande pas de dons, il exerce son métier à côté du ministère, probablement le faiseur de tentes. Voilà, en l'occurrence, à Corinthe, c'est effectivement le faiseur de tentes qu'il a exercé. Est-ce que ce n'est pas le signe qu'on a affaire à quelqu'un qui est dans la catégorie en dessous du reste des apôtres? Après tout, même les philosophes itinérants comme les sophistes se font rémunérer par leur discours, grâce à leur discours, la générosité des auditeurs, c'est ce qui leur permet de continuer. Mais lui, il ne demande rien, il doit travailler. Autrement dit, s'il ne demande rien, est-ce qu'on n'a pas affaire à quelqu'un qui n'a pas tant de valeur que ça après tout? Avec les changements de présidence ici en France, une des choses qui est venue sur le tapis, c'est la manière dont les présidents se reconvertissent. Vous avez peut-être entendu ou lu des articles sur le sujet. La question s'est posée pour Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il allait faire après? Et une des choses qui ressort, c'est les conférences. Alors prenez par exemple Bill Clinton, une conférence, 45 minutes d'intervention, ça coûte environ 200 000 euros. Tony Blair, environ 300 000 euros. Donc on ne va pas les avoir tout de suite à la RDS. Je précise que ce ne sera pas pour tout de suite. Et imaginez Nicolas Sarkozy qui participe à une conférence qui va à l'étranger. Mais il ne demande aucune rémunération. Et en fait, le billet, il va le payer lui-même pour y aller. Qu'est-ce qui se passerait dans la tête des gens? Est-ce que ça vaut le déplacement? Je veux dire, il n'y a pas de somme avec des chiffres pareils. Il doit lui-même payer son billet. Est-ce que ça vaut la peine d'aller l'écouter? Est-ce qu'il a des choses intéressantes à dire? Et ici, on réalise en fait que la suspicion, elle peut prendre différentes formes. Elle peut prendre différentes formes. Pour nous et pour d'autres, on pourrait être suspicieux si Paul avait demandé de l'argent. Là, on se dit, oh, mais il n'a pas fait. Pour ceux qui accusent l'apôtre Paul, c'est sur le fait qu'il n'a rien demandé. Elle peut prendre plusieurs formes. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter parce qu'il ne demande pas d'argent ou est-ce qu'on devrait s'inquiéter parce qu'il demande de l'argent? Comment est-ce que l'apôtre Paul va répondre à ces accusations? Il y a des droits auxquels il renonce et il insiste sur le fait qu'il va y renoncer, qu'il veut y renoncer. Et il y a des choses auxquelles il ne renoncera pas et il insiste sur le fait qu'il ne renoncera pas. Comment est-ce qu'il développe son raisonnement? Déjà, pour relever la forme, vous avez peut-être reconnu dans la lecture du texte toutes les questions. C'est comme si on était harcelé avec des questions, il y en a 19. En tout, dans tout ce chapitre. Et d'où vient la force de ces questions? c'est l'interpellation. On est constamment invité à réfléchir, à se positionner. Et si on veut suspecter quelque chose chez l'apôtre Paul, on réalise qu'il va falloir être rigoureux dans l'accusation. Parce qu'on doit se positionner à chacune des questions. Dans la première partie, il insiste sur le fait qu'il avait parfaitement droit à être rémunéré pour son ministère parmi eux. Et pour le démontrer, il commence avec des exemples qui font appel au bon sens. Qui combat jamais dans une armée à ses propres frais? Qui plante une vigne sans en manger le fruit? Qui fait paître un troupeau sans se nourrir du lait du troupeau? Et la réponse est quoi? Personne. Et comme si ça ne suffisait pas, il enchaîne avec un exemple tiré de la loi de Moïse. Est-ce que c'est alors que c'est normal pour un bœuf de manger du grain qu'il devait fouler, qu'il y avait justement à moudre, le principe s'applique aussi à toute personne qui accomplit un travail. Il le relève dans la question. Si vous avez semé, nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce que ce serait excessif que nous moissonnions chez vous les biens matériels? Il poursuit en mentionnant l'exemple du temple. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du temple sont nourris par le temple? Que ceux qui servent l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel? Et pour enfoncer le clou, il cite comme référence Jésus-Christ lui-même, probablement Luc 10, verset 7. De même aussi, le Seigneur a prescrit que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de la bonne nouvelle. Autrement dit, il a bétonné la position, le principe. C'est légitime pour quelqu'un qui annonce ce message, qui vit de l'annonce de ce message, d'être rémunéré pour cela. Mais la surprise, c'est qu'après avoir bétonné la position, il dit la chose suivante, au verset 12, « Pourtant, nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous supportons tout pour ne pas créer d'obstacle à la bonne nouvelle du Christ. » Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il renonce à un droit qu'il a établi avec toute sa légitimité? Peut-être quelques éléments de réponse. D'une part, on pourrait mentionner le fait qu'il ne veut probablement pas laisser cours à quelconque doute sur le fait qu'il le ferait pour l'argent. D'autres, à la différence de ceux qu'il accuse, pourraient penser effectivement que s'il fait ce qu'il fait en demandant de l'argent, c'est en fait pour l'argent qu'il le fait. Il y a une gratuité dans l'évangile lui-même que lui veut refléter dans la manière d'annoncer cet évangile. Il y a une correspondance entre le contenu du message et la manière dont il veut l'annoncer. Une autre chose qui doit certainement nous aider à comprendre pourquoi il fait cela, le fait de renoncer à ses droits, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, ça doit faire tilt. Matthieu, dimanche dernier, nous a prêché sur le passage de 1 Corinthiens 8, où il est question de quoi? De ceux qui n'ont pas de problème de conscience à manger des viandes sacrifiées au temple, mais qui doivent être prêtes à renoncer à leurs droits pour que des consciences plus faibles ne tombent pas. Ici, l'apôtre Paul est en train d'incarner le principe qu'il a enseigné à d'autres, de le vivre lui-même. Il aurait le droit de bénéficier de dons des auditeurs, mais il y renonce volontairement à cause de l'évangile, pour ne pas créer un obstacle à cet évangile. Qu'est-ce qu'on peut en retirer pour nous concrètement? D'une part, si nous sommes chrétiens, si nous sommes témoins de Jésus ce soir, eh bien, il est normal de tenir compte de cette suspicion qu'on a autour de nous, de gens qui suspectent toutes sortes de choses, peut-être le fait que vous faites tout ça pour l'argent, ou alors vous faites tout ça pour obtenir plus de pouvoir, pour faire grandir votre tribu, pour lui donner du poids en société, vous voulez un pouvoir politique. C'est légitime, c'est important pour nous en tant que chrétiens de tenir compte de cette suspicion et de se poser la question, mais qu'est-ce que je vais adopter comme manière de faire, comme parole, pour rendre témoignage d'un message qui est gratuit, qui n'est pas basé sur l'appât du pouvoir? Je pense par exemple à je l'entendais encore l'autre jour, d'une association ici sur Paris qui, au moment de collecte, disait « Si vous n'êtes pas croyant ce soir, Et on peut le dire ici, si vous n'êtes pas croyant, ne donnez rien à l'Église. Ne donnez rien à l'Église. C'est l'Église qui vous fait le cadeau de cette bonne nouvelle en Jésus. Vous n'avez rien à donner parce que c'est Christ qui s'est donné. Ce sera de réfléchir donc à la manière dont les gens suspectent le christianisme. Ensuite, une autre question qu'on peut se poser, à mon avis, c'est tout simplement à quel droit est-ce que j'ai tendance à ne pas vouloir renoncer ? Quelque chose qui, pour le bien de l'Évangile, serait utile de lâcher. On pourrait dire, j'ai le droit à une certaine sphère privée, j'ai droit à garder mon appartement, mon argent, mes biens, j'ai le droit à avoir mon temps en disposition comme je le veux. Et c'est vrai dans une certaine mesure. Et personne ici n'est capable de tout donner, ne devrait tout donner, ou tout vendre, ou donner tout son temps. Mais comment est-ce que je vais témoigner du fait que Christ, comme on l'a dit tout à l'heure, a renoncé à ses droits, et que moi, pour communiquer ce message, je suis prêt à renoncer à mes droits? Quel genre de choses est-ce que je tiens et que je n'ai pas l'intention de lâcher, alors que ce serait un bon moyen de permettre à l'Évangile d'aller plus loin? Maintenant, avec une sensibilité à la suspicion qu'on a autour de nous, des gens qui suspectent toutes sortes de choses, une des réactions, ça pourrait être de nous dire, mais si nous sommes chrétiens, ben, ne disons rien. Restons tranquilles, ne parlons pas de notre foi, on ne va pas brusquer les gens, surtout si parler de la foi sur la place publique, ça dérange, ne faisons rien. Et là, on arrive au deuxième point. Ce à quoi il ne renoncera pas. Ce à quoi il ne renoncera pas. Quand on entend les premières paroles, il y a des mots qui peuvent nous faire hérisser les cheveux. Quant à moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, verset 15, je n'ai pas écrit cela pour qu'il me soit attribué. J'aimerais mieux mourir. J'aimerais mieux mourir. Est-ce qu'on a affaire à un extrémiste prêt à tout? Quelqu'un qui est tellement finalement agressif qu'on devrait en avoir peur. Un peu plus loin, il dit « Je donne des coups de poing, mais pas dans l'air ». On m'a dit, attends, est-ce qu'il veut donner des coups de poing aux gens ou qu'est-ce qu'il fait? On peut se dire, mais on a affaire à quelqu'un de dangereux, un extrémiste, un fondamentaliste. Conviction religieuse d'un côté, j'aimerais mieux mourir. C'est un kamikaze. C'est clair qu'on a affaire à quelqu'un de déterminé. Mais en quoi est-ce qu'il est déterminé? Quel type d'extrémisme? Tirer sur la foule, opérer une révolution, imposer le christianisme par la force. Essayons de suivre le raisonnement. Dans sa démonstration, il dit être prêt, enfin, il commence par toucher des sonnettes d'alarme, hein, déjà, qui nous font réfléchir. On en relève deux dans ce qu'il dit. Au verset 15, toujours, « Personne ne réduira à rien, à néant, mon motif de fierté. » En effet, annoncer la bonne nouvelle n'est pas pour moi un motif de fierté, car la nécessité m'en est imposée. Quel malheur pour moi, en effet, si je n'annonçais pas la bonne nouvelle. Si je la faisais de mon propre gré, j'aurais un salaire. Mais si je le fais malgré moi, c'est une intendance qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est d'offrir gratuitement la bonne nouvelle que j'annonce, sans user réellement du droit que cette bonne nouvelle me donne. Je ne sais pas si il y a des mots qui font siffler les oreilles quand on pense à ses motivations, à sa détermination, mais les miens, ça serait fierté, salaire. Et là, on se dit, avec la fierté, on a touché quelque chose. C'est pour une fierté personnelle qu'il est prêt à faire tout ça. Il est déterminé parce que c'est un homme fier, orgueilleux. Mais ça ne colle pas avec la suite. Annoncer la bonne nouvelle n'est pas pour lui un motif de fierté. C'est une nécessité qui lui est imposée. Malheur à moi si je n'annonçais pas la bonne nouvelle. On pourrait parler de fierté si c'était quelque chose qu'il avait choisi d'entreprendre, disant, ça y est, je vais me lancer dans l'annonce de l'Évangile. Mais ce n'est pas ça. Malheur à moi si je ne le fais pas. Comment comprendre? Semble utile de faire un petit retour en arrière et de se souvenir des circonstances dans lesquelles il est devenu chrétien et devenu apôtre. On le lit dans le livre des Actes au chapitre 9. Et là, ce n'est pas après une année sabbatique, une conférence sur l'évangélisation, où il a réfléchi, un séminaire, un deuxième séminaire, un troisième séminaire, et bien après il se dit, peut-être que je devrais me lancer dans l'annonce de l'évangile. Alors qu'il va à Damas, il va pour persécuter les croyants, les chrétiens, et il est stoppé net sur la route. Il a une révélation du Christ ressuscité, il en devient aveugle, et sa conversion correspond aussi à une nouvelle vocation. Il devient apôtre de Jésus, rejoint les rangs de ceux qu'il persécutait. Et Paul décrit dans sa lettre aux Philippiens cette expérience en disant qu'il a été saisi par le Christ. Alors quand on a l'ensemble de sa conversion à l'esprit, ce qui domine, c'est la grâce de Dieu dans sa vie. C'est quelque chose qui lui est donné, un pardon qui lui est donné alors qu'il était meurtrier. Mais dans le même temps, il peut dire ici en toute honnêteté que c'est dans un sens pas vraiment son choix. Il a été stoppé net. C'est une nécessité. Il n'y a pas de fierté comme on pourrait l'entendre péjorativement. Il a été stoppé net dans sa direction et reconverti. La deuxième sonnette d'alarme qu'on pourrait entendre, c'est le mot salaire. Et là, on se dit, finalement, en fait, l'argent, ça l'intéresse quand même un peu. Hein. Mais là encore, est-ce que c'est ça? Quel est mon salaire? C'est d'offrir gratuitement la bonne nouvelle que j'annonce. L'extrémisme dont il fait preuve, ce n'est pas pour la fierté, ce n'est pas pour le salaire. Alors c'est pourquoi? Au verset 19, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, j'étais comme un juif. Avec les sans-lois, comme un sans-lois, afin de gagner les sans-lois. J'étais faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle afin d'y avoir part. » On entend ici l'extrémisme dont il fait preuve. C'est à cause de l'évangile, de la bonne nouvelle, pour y avoir part. Et pour l'instant, on n'a peut-être pas l'impression d'avoir compris grand-chose de plus. Dans quel sens est-ce qu'il entend prendre part à la bonne nouvelle? Il affirme au départ qu'il est bel et bien libre et pourtant qu'il se fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Les termes qu'il utilise là, ça rappelle une lecture qu'on a entendue tout à l'heure. On ne s'est pas consulté avec Anne-Sophie, mais c'est précisément ce genre de termes qu'on retrouve dans la lettre aux Philippiens, n'est-ce pas? Chapitre 2. Où là, l'apôtre Paul a décrit cette trajectoire du fils qui a renoncé à la gloire et tous les droits qu'il avait auprès du Père pour s'abaisser, prendre la condition humaine et plus bas encore, la condition d'un esclave, mourant la mort d'un esclave. On le voit au moment de son procès. Jésus n'essaie pas de se débattre, de faire appel face au jugement qui est prononcé contre lui. Il ne fait pas de menace. Il y renonce. Parce qu'il a en vue un plus grand bien, la réconciliation avec le Père pour tous ceux qui croiront en lui. Et c'est ici qu'on touche à l'extrémisme de l'apôtre Paul et avant lui de Jésus. Le fondamentaliste a comme fondement la trajectoire d'un homme qui a accepté de mourir par amour pour tous. Il est là l'extrémisme dont il fait preuve. L'amour pour tous. Quelle est la devise des sapeurs-pompiers de France? Parce que, ouais, la question pour un champion. Pas de champion dans la salle. Courage et dévouement. Alors maintenant, peut-être plus proche de nous. Quelle est la devise des pompiers de Paris? Vous connaissez? Sauver ou périr. Un cran au-dessus, hein? Sauver ou périr. Être prêt à mourir, finalement. Est-ce qu'on va dire d'eux que ce sont des extrémistes, dangereux? Non. De même, il y a des choses auxquelles l'apôtre Paul est prêt à renoncer. et d'autres choses auxquelles il n'est pas prêt à renoncer. Et son amour pour tous, cette annonce de la bonne nouvelle pour tous, il n'y renoncera pas. Il est prêt à renoncer à une rémunération, à une fierté, à un salaire, ça on a déjà vu. Il renonce aussi à d'autres droits. Il applique le principe du chapitre 8. Il est prêt à certaines privations dans des domaines secondaires pour gagner des personnes avec les Juifs. Il est par exemple prêt à manger kosher. Pour Timothée, il est prêt à le faire circoncire. Alors qu'il ne voit pas dans cette circoncision quelque chose d'intrinsèque, de valeur. Il est prêt à renoncer à toutes ses libertés parce qu'il voit un plus grand bien. Lorsqu'il n'est pas question de salut par la foi, il est prêt à y renoncer. Mais avec les 100 lois à Athènes, par exemple, il est prêt à parler du Dieu inconnu. Il est prêt à citer des poètes grecs parce qu'il veut les gagner à Christ. Une question qu'on peut se poser, mais ça, est-ce que ça signifie que l'apôtre Paul il est prêt à aller à se faire caméléon, prêt à convaincre à tout prix, devenir cambrioleur parmi les cambrioleurs, meurtrier parmi les meurtriers, menteur parmi les menteurs? Non. Il affirme qu'il est lié par la loi du Christ. Mais dans les choses secondaires, il est prêt à renoncer à ses droits. Tout en étant lié à la loi du Christ, il est prêt à se faire tout à tous. Jusqu'à quel point est-ce qu'il est déterminé? On a vécu les Jeux Olympiques cet été à Londres. Et Olympe, c'est l'endroit où se déroulaient les Jeux tous les 4 ans. Pierre de Coubertin, il est finalement revenu sur ce qui se faisait à Olympe. Mais Olympe, ce n'est pas le seul endroit où il y avait des Jeux, de tels Jeux qui se faisaient. Les deuxièmes Jeux les plus importants se faisaient à l'époque, pas loin de Corinthe justement, les Jeux isthmiques, tous les 2 ans. Et on peut imaginer que l'apôtre Paul a ça à l'esprit alors qu'il utilise ses illustrations dans cette dernière section. Maintenant, imaginez que quelqu'un se propose pour la délégation française et qu'on voudrait envoyer pour les Jeux Olympiques et qui dirait quelque chose du genre « Bon, je vais voir ce que je peux faire, mais honnêtement, je ne suis pas plus motivé que ça. Je veux bien aller, vous me payez le billet, j'y vais, d'accord, mais en fait, je ne suis pas vraiment motivé. Ou alors, bon, je n'ai pas vraiment le temps de préparer, mais faites-moi confiance. » Envoyez-moi aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'on enverrait des gens comme ça en délégation française? Personne. On n'enverrait personne comme ça. Et lui, ce qu'il met en évidence, l'apôtre Paul, c'est que celui qui court va courir pour gagner. Le lutteur, il va faire preuve de maîtrise. Et l'apôtre, lui, il court pour gagner. Il boxe, pas pour battre l'air. Il met toute son énergie en jeu pour annoncer cet évangile, le vivre, l'incarner, se faisant esclave de tous. Il est déterminé et il n'y renoncera pas. Qu'est-ce qu'on va retirer de cela? Peut-être une chose à laquelle on peut réfléchir, c'est qu'est-ce que ça va signifier pour moi, se faire tout à tous si je suis chrétien? Qu'est-ce que ça va signifier pour moi? Ce ne sera peut-être pas de manger telle ou telle nourriture ou de m'habiller de telle ou telle façon, comme ça a été le cas par certains missionnaires. Mais est-ce que je vais être prêt à avoir un réel intérêt pour d'autres, à lui donner du temps, à accorder à quelqu'un du temps qui est précieux pour moi, alors que j'aurais peut-être le sentiment d'être privé de certaines libertés? Est-ce que je vais être prêt à me priver de sommeil pour me lever plus tôt ou me coucher plus tard et prier pour telle personne que j'aimerais voir venir au Seigneur? Ce sera peut-être de lire ce qui est le centre de l'intérêt de l'autre personne, d'être prêt à me documenter pour répondre à certaines de ces questions. À quelle liberté est-ce que je serais prêt à renoncer pour me faire tout à tous? Une des choses qui devrait nous encourager, me semble-t-il, c'est que dans tout ce passage, la méthode reflète le message. La méthode reflète le message. Si l'apôtre Paul est déterminé à annoncer ce message gratuitement, c'est parce que lui-même, gratuitement, a reçu le pardon alors qu'il était un meurtrier, alors qu'il était pécheur. Il veut refléter dans sa manière de faire cette gratuité et il nous invite à reconnaître que nous avons été pardonnés gratuitement, pas par quelque chose qu'on aurait payé, pas par des efforts, des œuvres qu'on aurait faites pour être pardonnés. Et cette gratuité, elle devrait se refléter dans la manière dont on va annoncer ce message. Il annonce ce message comme un esclave, alors qu'il est libre. Parce que son Sauveur et son Seigneur s'est fait esclave. Et parce qu'il a été libéré lui-même d'une servitude au péché et de ses conséquences, il est prêt à prendre cette condition d'un esclave. Est-ce que j'ai réalisé que Christ m'a libéré d'un esclavage et de ses conséquences et m'invite à sa suite à vivre cet esclavage pour le bien de tous? Je vous invite à prier. Notre Père, nous voulons te remercier pour cette bonne nouvelle, l'Évangile qui nous a été offert gratuitement. Et nous te prions que nous puissions refléter ce cadeau qui nous a été fait dans l'annonce. Te prions, Père, que nous puissions voir combien Christ a accepté de se limiter et même limiter au point d'être cloué à une croix pour que nous puissions être libres du poids des péchés et de leurs conséquences dans notre vie. Pardonné par toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être prêt à renoncer à nos droits pour l'annonce de cet évangile. Au nom de Jésus. Amen.